Bible, nous allons regarder ce matin ce fameux parabole du semeur. Mais avant cela, on va regarder même trois aspects. Ce sont le sujet de notre temps ce matin. On va regarder même ce que c'est une parabole, la raison pour les paraboles et la clé pour comprendre les paraboles. Mais nous allons lire avant cela Marc chapitre 4, de versets 1 à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pireux, et elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas une sol profonde. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donnait point du fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a deux oreilles pour entendre, entend. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogent sur ses paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin que, qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pireux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Marc chapitre 4, versets 1 à 20. Parabole du semeur. Vous avez l'image devant vous. Les paraboles sont une façon que Jésus à utiliser pour enseigner les gens. Mais on commence avec l'idée, mais qu'est-ce que c'est une parabole? Qu'est-ce qu'une parabole? Je crois que nous connaissons tous ce que c'est une parabole parce qu'on a lu beaucoup devant vous. Vous voyez des différentes images. Peut-être vous pouvez deviner lequel parabole est souligné ici. Peut-être vous voyez le blé et les terres, les livrées. Qui est là. C'est la parabole du livret et le blé. Et vous voyez aussi l'image de le bon samaritain et le fils perdu et aussi le brebis perdu. D'autres, peut-être encore devant vous, les images évoquent certaines histoires, certaines paraboles qui sont là. Vous voyez la parabole du pharisien et le publicain. Et la parabole de l'homme riche et Lazare. Et en bas, vous voyez aussi les paraboles des 10 vierges. Jésus a utilisé les paraboles. Et voilà, on peut simplement commencer pour dire qu'une parabole, c'est quoi? C'est une courte histoire qui enseigne une vérité morale et spirituelle. Et ce qu'il utilise en donnant cette histoire, cette courte histoire, c'est des illustrations. Et ce sont des illustrations qui viennent des événements familiers de l'expérience humaine. Voilà une parabole, une courte histoire qui enseigne une vérité morale ou spirituelle par des illustrations venant des événements familiers et l'expérience humaine. Il y a environ 30 paraboles dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs même dans l'Ancien Testament. Et vous pouvez voir un peu, ce sont des choses qui se passent dans le monde. Les événements qui sont naturels, qui arrivent chaque jour. Vous voyez le mariage, les talents, le figuier, le serviteur inutile. Les bergers en train de regarder les brebis, le fils perdu, le grain de moutarde. Tout ça, ce sont des images, les idées qui sont là dans le monde, mais Jésus les a utilisées pour enseigner les vérités spirituelles. Et nous voyons que c'était une très importante partie du ministère de Jésus. Mais on pose la question, c'est quoi? Pourquoi les paraboles? Vous pouvez imaginer juste au commencement, les paraboles sont là pour éveiller l'intérêt des gens. Nous aimons tous les mystères, n'est-ce pas? Quand on ne comprend pas quelque chose et nous voulons trouver le fond de quelque chose, un mystère est là pour essayer de voir quelque chose peut-être qui est caché. Et je crois qu'une raison, c'est simplement que Jésus a voulu que les gens prennent l'effort pour comprendre les choses spirituelles. Dans Marc chapitre 4, verset 11, il a dit ceci: C'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Déjà, il est en train de faire une distinction entre les gens. Et je crois qu'une autre raison pour les paraboles, c'était de faire une distinction entre ceux qui sont vraiment en train de suivre Christ et ceux qui ne sont pas. Quand on voit ce mot mystère, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on va dire par cela? Ce n'est pas quelque chose de mystérieux, mais c'est ni quelque chose de difficile à comprendre. Dans la Bible, un mystère, c'est quoi? Un mystère, c'est quelque chose qui était autrefois caché, mais maintenant révélé. Et c'est quand on parle du mystère du royaume, il y a certains aspects qu'on ne comprend pas, mais au fur et à mesure, Jésus va les révéler. Et c'est maintenant qu'ils ont voulu les révéler, ce que c'est ce mystère du royaume de Dieu. Et c'est pour qui alors? Ce sont pour ceux qui sont qualifiés pour entendre. Jésus n'a pas voulu que tout le monde comprenne parce qu'il y a une différence entre les gens. Il y a une différence entre ceux qui ont suivi Jésus et qui ont voulu comprendre. Il y a une différence entre ceux qui ne veulent pas accepter que Jésus soit même le Christ ou qu'il est le Christ. Nous voyons que Jésus a dit, c'est à vous qui êtes donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, voilà, ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas des disciples, ceux qui ne sont pas engagés à suivre le Seigneur Jésus. Il a voulu, par les paraboles, faire une distinction. Il a voulu que ces paraboles soient pour ceux qui sont vraiment en train de suivre Jésus. Qu'est-ce qui détermine si quelqu'un va comprendre une parabole ou non? Ce qu'on va voir, c'est l'attitude de celui qui est à l'écoute. L'attitude. C'est ça un aspect tellement important dans l'évangile selon Marc, les attitudes. Déjà, on a vu l'attitude des disciples, Pierre et André, les frères, Jacques et Jean, deux autres frères, même Matthieu. Ils ont laissé tout pour suivre Jésus. Ainsi, les autres sept disciples aussi. Et nous avons vu que leur attitude, c'est Seigneur, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, on laisse tout pour te suivre. Nous avons vu les attitudes de multitude qui étaient là. Mais les multitudes, quand ils ont entendu et qu'ils ont vu le Seigneur Jésus, ils avaient cet aspect d'être saisis même de stupéfaction. Parce que même les esprits impurs obéissent à Jésus. Quand ils voyaient Jésus en train de chasser les démons, même de guérir les gens, parfois ils sont remplis de crainte, parfois ils sont saisis de stupéfaction. Ils ne comprennent pas encore, mais ils ne sont pas fermés à cet aspect, mais ils sont ouverts. Ils ont voulu savoir, mais qui est ce Jésus? Ils sont venus, bien sûr, pour voir les guérisons. Et voilà, ils étaient dans l'étonnement, ils glorifient Dieu. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu de pareil, surtout quand Jésus a guéri cette paralytique. Et même avant de guérir la paralytique, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Et les gens ont été stupéfiés, étonnés, ils n'ont jamais vu des choses pareilles. Et sous-entendu cette idée que voilà, ils ont envie de comprendre davantage. Et même aujourd'hui, dans le texte, nous voyons au commencement, dans le chapitre 4, les gens sont même assis. Ils sont toute une foule au rivage. Et ça dit que une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Et nous voyons, ils étaient même en train de s'asseoir et de vouloir écouter Jésus. Voilà les multitudes. Ils venaient nombreux pour être guéris. Ils venaient nombreux parce qu'ils ont voulu entendre ce message de Jésus. Mais on voit une autre attitude. Ce sont ceux des leaders religieux. Au lieu de recevoir Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu de recevoir Jésus, ils étaient toujours en train de le questionner. Nous voyons que il pose la question, pourquoi mange-t-il avec les pécheurs? Ou pourquoi tes disciples ne gardent pas le sabbat? Ils ont même le jour du sabbat, ils ont observé Jésus, le pharisien, pour voir s'il guérirait quelqu'un le jour du sabbat. Et c'était afin de pouvoir l'accuser. Et vous pouvez voir une telle attitude. Ici, un homme qui a besoin de guérison. Ils étaient là simplement avec ce désir d'accuser Jésus. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus avait eu cette attitude envers eux. Voilà, Jésus a dit dans verset 5, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé dans l'endurcissement de leur cœur. Jésus, en voyant ses leaders, ils étaient affligés, que leur cœur était endurci. Et voilà, il a guéri l'homme et Jésus regardait même avec indignation comment les gens pouvaient avoir une telle attitude. Mais qu'est-ce que les pharisiens ont fait? Ils sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Déjà, ils sont arrivés au point où ils ont voulu même tuer Jésus parce qu'il n'était pas conforme à ce qu'ils pensaient que c'était le Christ. Mais Jésus n'a pas voulu avec eux, alors il s'est retiré d'eux. Ils sont allés vers les multitudes qui ont voulu l'écouter. Les leaders religieux, ils sont arrivés au point de non-retour. Et ça, c'est un endroit où il est tellement effrayant que quelqu'un arrive à un point où il ne peut pas rentrer. Et Jésus a parlé de cela. La semaine passée, Alain nous a démontré dans ce texte que les gens ont commis ce blasphème contre le Saint-Esprit. Ils ont attribué aux œuvres de Jésus aux œuvres du diable. Les œuvres de Jésus aux œuvres du diable. Au lieu de reconnaître que Jésus était envoyé par Dieu, il était le Fils de Dieu, qu'il est venu pour sauver des gens. En voyant les miracles, en voyant son enseignement, ils ont endurci le cœur jusqu'au point de dire que voilà ce que Jésus fait, c'est pas Dieu, c'est le diable qui l'inspire. Et c'est ça qui était une blasphème qu'ils ont fait contre le Saint-Esprit, une attitude de rejeter carrément Jésus. Et c'est un rejet total de lui-même. Et c'est ça qui est ce péché non pardonnable. Est-ce qu'on peut commettre un péché non pardonnable aujourd'hui? Le seul péché non pardonnable, c'est ce péché de rejeter Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Leurs attitudes envers Jésus, je crois pour la plupart, ils sont ignorants. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas arrivés au point où « non, je refuse ». Mais ils sont ignorants, ils ont besoin de la vérité. Mais il y a quand même certains qui sont là, ils rejettent Jésus. Ils n'ont pas compris qu'il est venu pour les sauver. Et nous devons prier pour eux, prier que les yeux soient ouverts. Jésus était affligé du cœur de leur endurcissement. Et voilà, il enseigne alors les paraboles. D'une manière, c'est un jugement. Un jugement parce qu'il ne veut pas suivre. Alors, voilà, ils vont recevoir le résultat, la conséquence du fait qu'ils ne voient pas écouter Jésus. Mais les paraboles sont là aussi pour les aider, pour avoir. Et à la fin de Marc chapitre 3, nous voyons que Jésus est en train de souligner qui sont ses mères et ses frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Voilà, souligner cet aspect de l'obéissance que Dieu cherche. Celui qui fait la volonté de Dieu, même Dieu le regarde comme ses membres de sa famille, comme sa mère, son frère, ses frères, sa sœur. Tout ça, Jésus regardait ceux qui font la volonté de Dieu. Quel contraste avec ceux qui ont fait ce blasphème contre le Saint-Esprit. Alors Jésus disait, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin que voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner ici? Il est en train d'enseigner, il parle de ceux qui ne veulent pas se convertir. Il parle de ceux qui ne veulent pas accepter qu'il est le Christ. Et ce qu'il est en train de dire, le message de l'Évangile est pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui ont la volonté de comprendre la vérité. Et c'est ça qui est essentiel. Dans un autre endroit, Jésus a dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Ici, il ne parle pas d'une pauvreté en argent, ou en matériel, mais il parle d'une pauvreté en esprit. Quelqu'un qui dit, Seigneur, je suis rien, j'ai besoin de toi, sauve-moi. C'est comme le pharisien et le publicain, nous voyons un contraste. Le pauvre en esprit, c'était le publicain qui baissait la tête, ni ne peut pas lever les yeux au ciel, mais il priait ainsi en lui-même, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis-je un pécheur. C'est là où il faut commencer. Et c'est ça l'attitude que Jésus cherche. Pas celui qui est fier, qui est orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Et c'est ça. Nous recevons selon notre réponse à la vérité et notre réponse à Jésus-Christ. Les paraboles, ce sont ceux qui ont compris la vérité. Ils ont voulu suivre cette vérité. Ils ont voulu suivre la volonté de Dieu. Et c'est ça, quand on comprend une parabole, quand on comprend la parole de Dieu, c'est parce qu'on a ce désir de connaître davantage Jésus. Alors, nous avons vu ce que c'est une parabole et la raison pour la parabole. Et j'aimerais juste voir aussi, troisième chose, la clé pour comprendre les paraboles. Nous avons déjà vu, c'est une attitude, mais quelle est cette attitude en particulier qu'il est souligné? C'est souligné dans cette parabole du semeur, parce qu'il va parler de quatre différentes manières où cette semence a été semée. Et la clé, c'est le sol, là où ce semence est tombée. Et Jésus est en train de parler alors de ceux qui sont à l'écoute de cette parole. Et c'est ça qui est souligné dans les quatre différentes manières, les différentes sols qui sont là, nous allons regarder brièvement chacun, mais en regardant le texte, j'aimerais juste souligner l'importance de ce mot « écouter ». C'est ça la clé. Il a commencé ce parabole du semeur en disant « écoutez ». Il a terminé en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Plus tard, quand il va expliquer même la parabole, vous voyez combien de fois encore il souligne « celui qui entend, 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 entend ». C'est les quatre fois ce qui entend la parole. Plus tard même, il va encore, après avoir donné ce parabole, il va donner une autre parabole et encore va souligner « celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend ». Et dans verset 24, il va dire encore « prenez garde à ce que vous entendez ». On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous voyez, il faut écouter. Si on reçoit, on va recevoir. Si on reçoit les paroles de Dieu, voilà, on va même être ajouté d'autres choses. Mais si on rejette, si on n'accepte pas, on va même ôter ce qui est là. Et c'est un principe qu'on voit même. Je ne sais pas si vous avez vu ça en évangélisant les autres. Vous donnez la parole et un moment, et voilà, ils acceptent ou ils comprennent. Mais la semaine prochaine, vous voyez, ils ont perdu complètement ce qui était là parce qu'ils n'ont pas reçu cela vraiment dans leur cœur. Jésus, à la fin, l'a dit, c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. C'est la capacité d'entendre, c'est ça qui a déterminé les paraboles que Jésus a données. Alors, écoute, les différentes semences qui étaient semées, la semence, c'est la même, mais c'est l'endroit qui est différent. Verset 13, il donne les explications. Il a dit, mais verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Ça, c'est intéressant et c'est important à souligner. Il dit ici, concernant la parabole du semeur, que cette parabole est même la base pour comprendre toutes les paraboles. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? C'est ici où vous devez comprendre ceci. Et il donne l'explication. Il dit dans verset 14, le semeur sème la parole. C'est ça. La parole de Dieu est semée. Dieu est en train de semer la parole de Dieu même maintenant. Et cette parole est en train d'être répandue dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui se passe? Les uns, ce sont le long du chemin où la parole est semée. Et quand ils l'ont entendue, voilà, qu'est-ce qui arrive? Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Vous voyez l'image des oiseaux qui sont là. Et nous pouvons imaginer dans un champ quelque part, il y a une piste où quelqu'un est en train de traverser avec leurs pieds et ça endoucit le soleil. Et voilà, au lieu que le semence soit dans le bon sol, c'est dans un endroit qui est un peu dur. Et voilà, les oiseaux viennent et enlèvent ce qui est là. Et Jésus a dit, c'est Satan. Parfois, ça arrive, vous donnez l'évangile à quelqu'un, vous donnez la parole de Dieu, mais il vient, il enlève la parole. Et nous pouvons imaginer toutes sortes de moyens que Satan fait ça aujourd'hui. C'est lui qui aveugle les intelligences de ceux qui sont là. C'est le Dieu de ce monde, Satan, et il est en train d'aveugler l'intelligence des gens. Comment? La philosophie de ce monde, les idées de ce monde, le point de vue qu'ils ont, qu'ils ont grandi avec certaines idées que voilà, la Bible n'est pas la parole de Dieu, où ils ont grandi que voilà, Mohammed est le prophète, où ils ont grandi avec toutes sortes de différentes idées qui étaient semées depuis par Satan. Et Satan va enlever cette parole parce qu'ils n'ont pas compris ou ils ont de vouloir toujours comprendre ou suivre les enseignements qu'ils ont suivis depuis leurs enfances au lieu de suivre ce qui est là dans la parole de Dieu. Voilà la première partie. Une deuxième, on voit que ceux qui entendent la parole de Dieu, et c'est dans des endroits pireux. Qu'est-ce que ça veut dire pierreux? Souvent, les gens pensent que voilà, il est en train de dire que voilà, il y a beaucoup de cailloux dans les champs et ça ne permet pas que que les semences fassent ce qu'il fallait. Non, c'est pas ça. Même ici, à Fontoy, nous faisons parfois les balades, Carole et moi, et je suis étonné combien de cailloux sont dans la ferme. Mais chaque fois, il y a les choses qui poussent, même malgré le fait qu'il y a beaucoup de cailloux. Ce que Jésus est en train de parler ici, c'est des grands, grands cailloux qui sont au-dessus du sol. Et ça permet que, voilà, il y a un peu de sol qui est en dessous, vous voyez dans l'image, et peut-être quelques centimètres, mais en dessus, c'est une grande, grande pierre, un grand, grand rocher qui est là. Et ça permet qu'il y ait un peu de sol, les semences viennent, mais parce qu'il ne peut pas avoir des grosses racines, des grandes racines, voilà, quand le soleil vient, ça s'étouffe et ça se sèche et on ne peut pas avoir le fruit. Et comment est-ce que Jésus explique ceci? Il dit dans verset 17, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Voilà ce qui se passe. Il survient une tribulation, une persécution à cause de la parole. Ils y trouvent une occasion de chute. Voilà l'autre partie qui est tombée. Et voilà, peut-être avec joie, ils reçoivent cette parole. Voilà, Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais au moment que la persécution arrive, on voit que leur décision, que vraiment, c'était pas là. J'avais vu cela plusieurs fois. Plusieurs fois, les gens disent, wow, ce que tu es en train de dire, c'est vrai, mais ils n'ont pas voulu vraiment accepter ça pour eux-mêmes. Et c'est ça l'exemple de Jésus plus tard, vous dire, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais Jésus va leur dire, mais écoute, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'on a quelqu'un qui a compris certaines choses, mais ils n'ont pas vraiment saisir la profondeur de cela. Et dès que quelque chose arrive qui les trouble, ils quittent. Mais Jésus est en train de dire que non, et c'est pas ça qui va porter le fruit. Le troisième, il parle de celui qui est trouvé parmi les épines. Et encore, ils entendent la parole, mais les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole. Peut-être vous avez parlé avec quelqu'un et quand vous parlez avec eux, vous voyez que vraiment le cœur de celui-là n'est pas en train de vraiment écouter ce que tu es en train de dire. Ils ont trop de soucis. Ils ne vous entendent, ils pensent à d'autres choses. Et ici, c'est l'idée que voilà, la parole de Dieu est venue, mais vraiment, c'est les soucis, c'est les richesses, c'est les autres choses qui viennent, qui étouffent et vraiment, il n'y a pas le fruit qui arrive. Mais le dernier, qu'est-ce qu'on voit? C'est ceux qui entendent la parole, la reçoivent, voilà, et portent du fruit. On voit qu'ils laissent que cette parole vienne dans leur vie, ça leur change, et maintenant on voit que ça porte du fruit. La clé, c'était quoi dans tout cela? C'est la manière qu'on entend et qu'on accepte, qu'on reçoive ce qui est là. Le bol, le bon sol, la terre qui est bonne, c'est un cœur qui est prêt à recevoir la parole de Dieu malgré ce qui arrive, malgré les tribulations, malgré la promesse de la richesse dans ce monde. Tout ça, c'est rien. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça, nous voyons dans les Écritures, souligné plusieurs fois. À la fin de ce fameux sermon sur la montagne, Jésus a parlé de cette maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui était bâtie sur le sable. Et la différence entre les deux, c'est quoi? Souvent, les gens donnent beaucoup d'idées, mais le texte dit simplement, verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dédie et les met en pratique. La différence entre les deux, c'est l'un qui entend et qui accepte et qui met ça en pratique. Et voilà, il est sur le roc, le vent vient, le torrent vient, le souffle vient, il jette contre la maison, mais elle est fondée sur le roc, il ne tombe pas. Mais l'autre, c'est qui, comme un insensé, il dit, Il bâtit ses maisons sur le sable, la pluie tombe, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et battu cette maison, elle est tombée et sa ruine est grande. Et la raison, quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique. Et c'est ça où nous voyons une différence entre les deux. Quelqu'un qui reçoit avec foi ce que Dieu a dit et le met en pratique. Mais l'autre, vraiment, il ne croit pas. Il croit que plutôt aux mensonges du diable, il croit aux promesses du diable, il croit aux autres choses. Il croit dans ces choses au lieu d'avoir la foi en Dieu. Et ici, la différence, c'est celui qui écoute et qui met ça en pratique. Jacques dit la même chose. Je clôture avec ceci. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, versets 19 à 22, « Sache-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Et il donne une conclusion, une sorte d'application. C'est pourquoi, rejetant donc toute souillure et tout abordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Voyez cette même image d'une semence plantée en vous. Il dit, mais recevez avec douceur cette parole qui peut vous sauver vos âmes. Et il dit, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Mettez en pratique. Et c'est ça. Ce matin, nous voulons, j'espère, tous être comme celui qui est là, qui écoute la parole. Et la fin de ce verset dans Jacques qui dit, si quelqu'un qui écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde au miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Encore cet aspect de heureux, celui qui plonge, qui écoute, qui persévère et qui met à l'œuvre, c'est ceux qui sont heureux. Et ça nous fait rappeler, Psaume 1, même, heureux celui qui médite la parole. C'est ça le joie, le délice de celui qui est là. Voilà, nous voulons porter du fruit, n'est-ce pas? 30, 60 et même 100 pour un. Une telle récolte en Israël, d'avoir 30 pour un, c'était incroyable. Mais ici, il est en train de parler de chaque croyante. Nous pouvons porter du fruit malgré notre passé, malgré le fait qu'on était dans le monde, on était en train de suivre Jésus. Mais il y a un grand espoir que nous avons. Quelqu'un qui est en Christ, il est une nouvelle création. Le Saint-Esprit habite en eux. La parole de Dieu est là. Et nous avons la possibilité, là où on était rien, on était zéro, maintenant en Christ, nous pouvons porter du fruit et nous pouvons glorifier le Seigneur. Mais tout dépend de notre attitude envers la parole de Dieu. Que nous tous, que nous croyons en Dieu, que nous croyons dans cette parole et que nous croyons en Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Peut-être il y a quelqu'un qui, à un certain moment donné, vous avez compris qui est Jésus, mais vous n'êtes pas encore engagé à dire, Seigneur Jésus, c'est toi le seul sauveur qui est venu dans ce monde. Sauve-moi, Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux le faire. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez avoir cette attitude de quelqu'un qui est pauvre en esprit, qui dit, Seigneur, je suis rien, mais toi, tu es tout. Sauve-moi par Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes en Christ, voilà, c'est une application simple que quand nous entendons la parole, qu'on n'endoucit pas notre cœur, mais qu'on met cela en pratique. Il y a une bénédiction pour nous. Nous pouvons porter du fruit pour sa gloire et pour son honneur. Et c'est ça même le but de notre vie, de glorifier Dieu. Et que le Seigneur nous aide à faire cela. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et pour cette occasion d'écouter cette parabole du Seigneur Jésus, aide-nous de de mettre en pratique ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et nous prions au nom de Jésus. Amen.